On va commencer donc en lisant à partir du chapitre 19, verset 11. Là, on s'était arrêté la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui était là la semaine dernière? Ok. Pour rappeler. Quelqu'un qui veut rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière?
Allez,
vite fait.
C'est
bien.
Alléluia.
Et Alléluia.
Et Alléluia.
Bon, ce qui était vu la semaine dernière était vu la semaine dernière. Et nous, on regarde à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange debout dans le soleil. Il criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avait reçu la marque de sa bête et qui se prosternait devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Oui. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ta parole, merci pour ces textes, merci parce que tu veux nous parler, parce que tu veux nous apprendre des choses sur toi-même, sur qui tu es, sur ton plan pour l'humanité. Aide-nous à comprendre, aide-nous à avoir des convictions et à regarder ces textes et à sentir comment tu veux qu'on les comprenne, comment tu veux nous guider, Seigneur, à comprendre ces choses et quoi en retirer personnellement. Sois glorifié. Merci. Amen. Donc, puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Vous avez des remarques sur ces choses? Vous avez des... Dans les questions?
Oui, dans les questions. Vous avez donné Pierre la dernière fois, pas la fois précédente.
D'accord.
Il semble-t-il. Hein.
Mm-hmm.
C'est ça?
Moi, les questions portaient sur le 20 et 21, en fait. Ils étaient. On pensait s'arrêter. Mais quelle impression ça vous fait, ce texte, à première lecture, pour la plupart d'entre vous?
Que Jésus
a
remis de la paix. C'est vrai, carnage. Jésus a remis sur son cheval.
Bah, la paix, pas tellement.
Verset 11.
Oui, mais il vient combattre.
Oui,
mais c'est ça. Il s'appelle le prince en lance, le cheval.
Oui. Donc, on a encore le ciel qui s'ouvre. Est-ce qu'on avait déjà vu des épisodes où le ciel s'ouvrait?
Résurrection, c'était ouf. Non.
Oui. Il y a des épisodes où... Déjà dans l'Apocalypse, il y a des,
oui.
Il y a des passages où Jean voit le ciel ouvert, oui. La porte ouverte dans le ciel, bon, c'est pas exactement la même chose. Au chapitre 4, il y a des passages dans le Nouveau et l'Ancien Testament où il y a des gens qui voient le ciel ouvert, des choses qui s'y passent. Par exemple, Étienne, dans le Nouveau Testament, quand il est en train de mourir, il dit je vois les ciels, les cieux ouverts et le Fils de l'homme qui se tient à la droite de Dieu. Mais ici, c'est un peu comme si c'était le. Enfin, ça, c'est un truc encore plus incroyable. C'est un peu comme si le. C'est un peu le leitmotiv qu'on doit garder, je dirais, en regardant l'Apocalypse. À se dire, on peut avoir un nombre d'interprétations différentes sur le déroulement, sur les symboliques exactes, sur les nations, sur les choses qui se passent. Mais la chose dont on est sûr, c'est que Jésus revient. Ouais. Et ça doit rester comme la chose qui nous garde un petit peu les pieds sur terre quand on regarde ces textes. C'est facile de se perdre dans des conjonctures, de passer sa vie à lire des livres avec des hypothèses plus farfelues les unes que les autres, mais en se rappelant que Jésus revient, ça nous permet de garder une bonne motivation, une bonne perspective par rapport à nos vies, par rapport à ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on a envie de faire, quelles sont notre raison d'être, disons. Et donc là, c'est vraiment un moment super important dans ce livre. C'est ce retour de Jésus sur terre. C'est un peu comme si le ciel, c'est les portes qui s'ouvrent pour laisser Jésus sortir du ciel. Ce qu'on sait, ce que ça fait penser aussi à, enfin, par rapport à où il va aller quand il descend du ciel. Il y a un épisode où les anges disent de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, vous le verrez revenir. Il y a des annonces dans Zacharie et dans Ésaïe qui a priori font référence au fait que Jésus va revenir se poser sur le mont des Oliviers pour ce combat. Et ce retour, c'est vraiment c'est aussi la réponse à des prières et à des souhaits de chrétiens et du peuple juif pendant toute l'histoire de l'Église et pendant la tribulation. C'est-à-dire que c'est vraiment j'imagine aussi pour les gens qui vont traverser la tribulation, c'est aussi un peu le soulagement, quoi, pour ceux qui croient en Jésus, en tout cas pas pour les autres. Mais c'est vraiment quelque chose qui va réjouir beaucoup de gens qui attendaient que Dieu finisse les choses un petit peu. Il est sur un cheval, qui est signe de quoi? De puissance. Ouais. C'est une imagerie qui était à l'époque de Jean et de l'Empire romain. C'était ce retour triomphal des empereurs qui avaient gagné, ou des généraux qui revenaient, qui étaient sur des chevaux, qui rentraient dans Rome C'est l'objectif d'avoir des choses comme l'Arc de Triomphe à Paris, c'est cette idée de triomphe, de retour, de puissance, de victoire. Et celui qui le montre s'appelle fidèle et véritable. Nous, quand on entend ces mots fidèle et véritable, ça vous fait penser quoi ? Les élections. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Que Jésus, pour nous, soit fidèle et véritable. Pour ceux qui sont contre Jésus, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il va, il va aussi être fidèle à ses promesses et ce qu'il a dit et à qui il est par rapport à ceux qui s'opposent à lui. C'est intéressant aussi de réfléchir, est-ce que je connais quelqu'un que je pourrais taxer, voilà, de fidèle et véritable. Qui juge et qui combat avec justice. Et c'est intéressant aussi quand on réfléchit à l'idée de guerre telle que l'homme la connaît. En général, la guerre, il y a toujours des... C'est toujours emmêlé dans plein d'hypocrisie, de mensonges, d'intérêts égoïstes, d'envie de puissance, d'envie de querelles. C'est toujours issu de la mauvaise nature de l'homme. C'est toujours issu de choses qui ne sont pas véritables, de choses qui ne sont pas fidèles. Et où il n'y a pas de justice, où il y a des injustices qui sont commises. On essaie de nous faire croire que les guerres, on a toujours toutes les guerres, et tout le monde a toujours envie de dire que c'est juste, qu'on y va pour une bonne raison, qu'on y va... Mais on se rend bien compte et on finit blasé et tellement incrédule face aux gens qui veulent nous faire croire que les guerres à notre époque sont toujours des choses qui sont... Pur et comment je dirais, dénué de tout intérêt égoïste ou pour une bonne cause, voilà. Alors que Jésus, lui, il juge et combat avec justice, il est fidèle et véritable, tout est bon, on le verra plus tard. C'est vraiment, enfin on en a déjà parlé, mais cette idée que Dieu dans son jugement est complètement juste, il n'y a rien d'incorrect, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... C'est vraiment complètement logique, bon, enfin, on peut... Et là, c'est intéressant parce que les hommes tentent de le rejeter à nouveau. Les hommes se rebellent à nouveau contre lui lorsqu'il vient la deuxième fois, mais la deuxième fois il va pas se laisser faire comme la première fois. Oui.
Juste pour revenir un peu sur le fait qu'il est fidèle et véritable, on avait vu au chapitre 6, le premier des sept sceaux, c'était le cheval blanc aussi, et on avait dit que c'était l'Antéchrist. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Satan peut à l'avance faire des fausses représentations de ce qui va se passer. Il a une certaine connaissance, il n'a pas une complète connaissance. Un peu comme quand on parlait de Sémiramis et de
Camus,
qui avait été ressuscité, blessé par un taureau et ressuscité trois jours plus tard. Et là, on a un peu cette même chose. Là, en fait, voilà le vrai cavalier.
Ouais. Et là, c'est pas le petit bébé Jésus tranquille qu'on aimerait docile, qu'on peut mettre dans la chambre et puis on le laisse pleurer, quoi. Là, il s'impose, quoi. C'est toujours. Cette idée l'idée de Jésus seulement gentil et un peu faible, se soumet ou c'est de...
En fait, là, il est conquérant et vainqueur.
Et on va voir dans ces textes que essayer d'éliminer l'idée que Dieu juge et qu'il a une horreur du péché et qu'il est obligé de juger le péché. Si on essaye d'éliminer ça de notre compréhension de Dieu, c'est complètement incohérent avec les textes qu'on a là. Souvent, les gens veulent nous faire dire, oui, l'Ancien Testament, c'est un autre Dieu, il était sanguinaire et méchant, et le Nouveau Testament, il est gentil et bon. Et puis, quand on vient à des textes comme ça, on voit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et c'est pas... Il y a une manière de le comprendre, et les gens préfèrent ne pas le comprendre ou le rejeter. C'est peut-être aussi pour ça que les gens n'aiment pas étudier l'Apocalypse. Surtout dans le Nouveau Testament, il y a plutôt pas mal d'épisodes. C'est bien, mais l'Apocalypse fait vraiment, d'une certaine manière, un peu, pour ceux qui veulent dire qu'il y a un changement, l'Apocalypse, il pose vraiment problème par rapport à cette idée-là. Il revient à de l'Ancien Testamentaire. Là, il envoie un ange dire aux oiseaux de se préférer pour manger. C'est quand même assez... C'est glauque, quoi. C'est un peu comme l'imagerie que les gens n'aiment pas dans l'Ancien Testament. Quand on lit, en préparant une des études, je lisais les commentaires que faisaient des maîtres penseurs parmi les écrivains athées, des Richard Dawkins ou des différentes personnes, et qui disent qu'en gros leur un de leurs points pour rejeter toute la Bible, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est sanguinaire, qui est le plus horrible qu'on ait jamais vu, qui est encore pire que tous les dieux des Grecs, des Romains et toute la terre. En gros, l'idée que Dieu juge et qu'il à un moment ils doivent être tenus pour responsables pour leurs actes, ils refusent, ils rejettent en bloc. Et donc ces textes-là sont vraiment, j'imagine, difficiles à lire pour des gens qui veulent essayer d'expliquer ou de symboliser ou de spiritualiser les choses pour essayer de trouver une explication en disant que Dieu, finalement, il aime tout le monde et il va nous accepter. C'est pas cohérent avec ces textes ici, de ce que je vois. Des questions par rapport au 11. Non ? Versets 12 et 13. Sur ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Si on revient à l'imagerie de la vision du premier chapitre avec les yeux comme une flamme de feu, avec aussi plus loin, verset 15, l'épée tranchante qui sort de sa bouche. Donc ces yeux qui sont comme une flamme de feu, c'est l'idée que il voit au travers des choses, il révèle le fond des choses, il voit à travers tout. Les plusieurs diadèmes, c'est les couronnes qui étaient données au roi en signe de d'autorité royale par la lignée en quelque sorte. Et ici, cette idée d'avoir plusieurs diadèmes, et ce qui est marqué plus loin, qu'il est le roi des rois. Verset 16, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il y a vraiment cette idée que c'est lui le souverain, sans limite, c'est lui l'autorité ultime. Et ça fait contraste avec ces gens, versets 17 et 18, les chefs militaires, les puissants, ceux qui montent les chevaux. C'est Jésus le roi des rois. Il a un manteau trempé de sang. À votre avis, c'est son propre sang ou le sang de ses ennemis? Plutôt ses ennemis, dans l'imagerie, dans le contexte. S'il revient jugé, il revient piétiné en quelque sorte. Et donc c'est plutôt le sang de ses ennemis qui coule. Ça renvoie à l'imagerie où il y a la description du carnage dans la bataille d'Armageddon, où il y a le sang qui est sur 1200 stades jusqu'aux morts des chevaux. Cette idée de sang, de mer de sang en quelque sorte. Il porte un nom que nul ne connaît sinon lui. Là, ça vous fait penser à quoi?
Dans les églises aussi.
La lettre, que chacun va recevoir un caillou blanc.
Oui, un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que nul ne connaît. Exactement, c'est à celui qui l'ingrage. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Et aussi, je pense à des passages, je crois que c'est dans Jean, où Jésus parle du fait que. Qu'il n'y a personne qui connaît le Père sinon lui, et le Père le connaît, mais il y a une espèce d'intimité cachée avec Dieu le Père. Je ne me souviens plus la référence, j'ai pas pris le temps de chercher. Et donc il a un nom que nul ne connaît.
Un nom qui est au-dessus de tous les noms, quoi, en fait. En Philippiens.
Alors évidemment, dès que le texte dit qu'il y a quelque chose que personne ne connaît, il y a dizaines de milliers d'interprétations et d'explications pour dire il y a un livre de Pierre qui s'appelle « Les difficultés bibliques » par un certain Alfred Kuhn, et dans lequel il fait un peu un regroupement, il traduit pas mal de commentaires de différents écrivains, commentateurs au cours de l'histoire, et c'est intéressant de noter sur un passage comme ça qu'il peut avoir 3-4 pages avec 20 commentateurs qui ont différentes suppositions et différentes idées. C'est toujours l'envie de trouver le truc en plus que l'autre n'a pas. Son nom est la parole de Dieu. Ça fait penser à Jean 1,14. J'avais pensé à d'autres passages aussi, mais cette idée que Jésus est la parole de Dieu et la révélation de Dieu. Jean 1,14 qui dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il y a d'autres passages évidemment qui font référence à ça. La parole de Dieu est aussi un feu, un marteau qui brise le roc, comme on le sait dans Jérémie 23-29. Donc il y a aussi cette idée de puissance avec la parole de Dieu. Pour la création, il a suffi que Dieu parle, et pour défaire la création, il suffira qu'il parle aussi. C'est des choses qu'on ne saisit pas, la puissance, la dimension de cette puissance nous échappe. C'est intéressant l'histoire des noms, parce qu'il y en a plus loin, on voit qu'il y a d'autres noms encore écrits sur la jambe. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Mes questions par rapport à ces versets 12 et 13 et des remarques. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtu de fin lin, blanc et pur. On a vu, pour ceux qui étaient là dimanche, l'idée qu'il y avait des armées invisibles dans le ciel, ça m'a fait penser à ça. Alors dans 2 Rois 7, a priori, c'est une armée d'anges. Ici, Qui est-ce que vous pensez que c'est?
Les Chinois.
Peut-être. Je savais pas qu'ils étaient tous au ciel, les Chinois. C'est intéressant qu'on ne décrit pas d'armes. Ils sont juste, c'est leur vêtement qui suffit. Et le fait qu'ils soient avec Jésus.
Ils portent les mêmes vêtements que l'épouse. Mm-hmm. On a vu la semaine dernière.
Oui. Ils portent aussi les mêmes vêtements que les saints de la tribulation, qui étaient au chapitre 7. Versets 9 et 14. 7 verset 9. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et verset 14. Mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc c'est aussi une hypothèse. Il y a donc l'Église, on a vu donc 19, verset 8, il lui a été donné... Son épouse s'est préparée, verset 7, il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes et saintes. Donc ça peut être cela. Il y a des gens qui disent aussi, alors... Dans les commentaires, il y a des hypothèses différentes, mais en gros, il y a quatre groupes éventuellement qui peuvent faire partie de cette armée. C'est l'Église, les saints de la tribulation, qui sont venus à Christ pendant la tribulation. Une des autres hypothèses qui est avancée, c'est les saints de l'Ancien Testament, ceux qui ont cru par avance à Jésus. Et des anges, évidemment, on voit mal les anges ne pas participer à cet événement, mais voilà. Des questions par rapport à ça?
C'est intéressant parce qu'il ne parle pas des anges qui vont rester régner avec Jésus après.
Il y a aussi débat à savoir si c'est les anges. La plupart des commentateurs pensent que c'est plutôt des chrétiens, justement. Mais ceux-là, disons qu'ils sont... Là, l'idée, c'est que c'est les gens qui sont au ciel déjà, qui descendent avec Jésus. C'est des épisodes... Si l'Église... Enfin, ça, c'est évidemment des choses si on prend différents points de vue par rapport à l'enlèvement de l'Église, par rapport à l'interprétation de la chronologie des choses, ce qu'on va regarder au chapitre 20 aussi, avec le millénium, suivant comment on interprète le déroulement, on a différentes choses qui se passent. Si on considère que l'Église est présente pendant toute la tribulation, alors peut-être que c'est pas eux, peut-être qu'ils sont enlevés, ils rencontrent Jésus qui est en train de descendre et donc qui sera lié à lui. Moi, dans une vision d'enlèvement de l'Église avant la tribulation, l'Église est au ciel, il y a les noces qui se passent au ciel. Et ensuite, ceux qui sont les saints au ciel, à savoir les saints de l'Ancien Testament, ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, et l'Église qui ensuite redescendent avec Jésus quand il vient en conquérant. C'est des choses, on va essayer de la dernière séance de faire un récapitulatif des différents points de vue. On en a déjà parlé pour essayer de bien avoir une vision d'ensemble des choses. Je pense que ça c'est un point qui sera aussi un peu plus clair. Verset 15. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc sa bouche, l'épée tranchante, frappe les nations. Je pensais évidemment à Hébreux 4, 12, on en a déjà parlé. D'autres passages dans l'Apocalypse où on voit Jésus avec cette imagerie déjà. Il y a aussi des passages, il me semble, dans Ézéchiel ou Jérémie qui parlent du fait que son épée sort pour tuer, mais c'est vis-à-vis d'Édom et de Moab. Il y a des références par rapport à ça qui font penser à cette idée d'une épée qui frappe les nations. L'idée qu'il les fera paître avec un sceptre de fer. C'est une imagerie qui vient du psaume 2, qu'on a déjà vu à propos de l'enfant, qui était au chapitre. C'était au chapitre 12, avec le sceptre de fer, et qui est en fait une citation du psaume 2. Et donc là. Oui, oui. Psaume 2, verset 9. Et donc là, c'est Dieu qui, ce sceptre de fer, représente son autorité sur les nations. Et donc, c'est un peu l'idée que Jésus vient enlever toutes les puissances, les autorités, les nations, les organisations. Et c'est lui qui va diriger les choses. C'est lui qui a le pouvoir. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est l'imagerie qui est restée de l'Ancien Testament de la production du vin, où il marchait sur les grappes dans la cuve pour faire sortir le jus de raisin. Et c'est cette idée de dans la colère de Dieu en tuant les gens. C'est un petit peu comme s'il y avait le sang qui giclait, un peu comme... C'est une imagerie très... qui peut toucher les imaginations. Ouais, très imagé. D'autres commentaires par rapport à ce verset 15. Verset 16. Il a un manteau et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc là, on voit qu'il a encore cette c'est pour montrer son autorité, c'est avec les diadèmes, avec le sceptre de fer, avec l'épée qui sort de sa bouche, avec le cheval qu'il monte, puis ce manteau, et sur sa cuisse, on pouvait bien lire quelqu'un qui est monté sur un cheval, on voit bien à hauteur de tête les choses écrites: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vraiment une image d'autorité assez incroyable. Versets 17 et 18. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. C'est beau. C'est violent. Ouais, c'est macabre. Ça fait penser, c'est encore des scènes où même les films un peu les plus fous qu'on ait n'arrivent pas forcément à transcrire chez soi sur ce genre de magnitude. C'est s'imaginer autant de gens. Et donc il y a cet ange qui est debout dans le soleil, ou peut-être devant là où est le soleil, il est au milieu. Le fait qu'on arrive à le voir quand même, il y a une idée de peut-être il est très très brillant. Là on ne sait pas. Et en tout cas il appelle les oiseaux, a priori avant la bataille d'Armageddon qu'on a déjà vue, pour qu'ils viennent et qu'ils mangent. priori, on voit aussi qu'il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ici. Le jugement, il est pour tout le monde pareil, que ce soit des grands, des petits, des libres, des esclaves, et des généraux ou pas. Pour lui, c'est tout le monde pareil. Une vraie justice à ce niveau-là. C'est intéressant l'idée de grand festin de Dieu. On se dit, est-ce que ça fait penser au festin, aux noces de l'agneau ou... Oui, c'est autre chose là quand même. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ce verset? Versets 19 et 20. « Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. » Donc tout le monde est rassemblé pour combattre Dieu. Mais ça fait un peu... Il n'y a même pas vraiment de bataille. Ça fait plutôt peloton d'exécution ou extermination que bataille, quoi. Il y a pas de... On a l'impression qu'il y a que Jésus qui se salit un petit peu, quoi. Tout le reste de son armée est juste là pour le louer, pour chanter, pour l'encourager. Et encore une fois, on voit la folie du péché de pouvoir penser qu'on peut s'opposer à Dieu, à essayer de combattre Dieu, et la manière dont la fin vient sans même vraiment d'opposition, quoi. C'est juste c'est fini sans qu'il y ait quoi que ce soit comme bataille. Et les deux pions de Satan, là, la bête et le faux prophète, sont jetés en enfer. Donc a priori avant Satan et avant les hommes. On a vu qu'il y avait l'abîme et qu'il y a l'enfer. Alors il y a deux, on va le voir au chapitre 20, mais il y a une distinction qui est faite où avant le jugement final, il y a un peu l'abîme où dans d'autres mots qu'on a vu ou qu'on peut rencontrer, on avait vu Sheol, qui était le mot hébreu dans l'Ancien Testament pour décrire cet endroit, ou Hadès en grec, et c'est un peu le séjour où les morts qui ne croient pas en Jésus sont envoyés pour attendre le jugement final, le jugement dernier qu'on va voir au chapitre 20. Et c'est aussi un endroit où les démons étaient envoyés emprisonnés et tourmentés. Il y a différentes références dans la Bible qui nous parlent de ça. Et l'enfer, à proprement parler, c'est cet étang de feu qui est l'endroit du rejet final après le jugement final par Dieu de tous les hommes et de Satan qui vont être envoyés vraiment en enfer à ce moment-là. Et ces deux... ce faux prophète et cette bête sont envoyés un peu en premier, a priori, en enfer, sans forcément on va voir au chapitre 20 qu'il y a un jugement dernier, et on n'a pas l'impression que ces deux-là aient droit, tellement Dieu se préoccupe même pas, c'est vraiment du... Il n'y a pas de question possible. Ensuite, verset 21, « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Donc encore une fois, ça semble vraiment brutal. C'est Jésus qui fait tout là, c'est lui qui tue tous les autres avec l'épée qui sort de sa bouche. Et ensuite, les oiseaux viennent manger. Il y a des questions par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vu là pour l'instant.
C'est vrai que c'est drôle, quand tu parlais de la bataille d'Armageddon, mais en fait, on n'a pas vraiment le sens que c'est une bataille. C'est intéressant.
Mmh. Ouais.
Si Jésus tue maintenant tous les autres, est-ce que ça veut dire que maintenant il n'y a plus, plus de non-croyants? Parce que en chapitre 20, là dans le dans les 1000 ans, il y a encore le Satan qui veut tenter les autres.
Alors on va voir le un petit peu le déroulement par rapport au millénaire, mais a priori il reste des hommes après cet épisode, des gens qui sont croyants. Et a priori aussi des non-croyants qui auraient pris part à la, qui auraient peut-être pas pris part à la bataille, qui seraient restés. Non, non, le millénium, oui, mais je veux dire avant le millénium, a priori il y a aussi un, enfin les commentateurs que je lisais parlaient, il y a plusieurs épisodes où ils pensent que Jésus va juger après cette bataille, et avant le millénium et que ceux qui sont non-croyants, qui ont survécu à cette bataille, vont être condamnés en quelque sorte, et il va accepter pendant le millénium que ceux qui sont croyants.
Mais qui pourrait survivre cette bataille?
Enfin, on ne sait pas si c'était un endroit géologique, s'il y a des femmes et des enfants qui sont restés à la maison, ou des... Enfin, je ne sais pas exactement. Alors, c'est sujet à pas mal de... Il y a pas mal d'explications possibles. C'est des possibilités, après laquelle est la bonne, moi je sais pas. Mais l'idée qu'a priori, même avec cette bataille et même avec tous ces morts, il peut, et même après tout ce qui s'est passé pendant tout ce qu'on a vu, tous les cataclysmes, tous les jugements qui ont été versés, qu'il y a quand même des hommes qui survivent. Et tout ça, je vais essayer de l'expliquer. Mais c'est ce qu'ils appellent. Ils prennent certaines des paraboles de Jésus quand ils parlent des boucs et des brebis, où Jésus va dire aux brebis de rester et que les brebis vont rentrer avec lui. Les brebis vont entrer avec lui dans son royaume. Donc il pense qu'éventuellement, c'est cette phase après cette bataille d'Armageddon où il sépare les non-croyants et eux, ils les rejettent. Ils vont dans l'abîme ou enfin, quelque sorte, le pré-enfer. Et les autres qui viennent, les autres qui croient en Jésus, qui viennent avec lui dans son royaume. Et aussi la parabole de l'ivraie que Jésus va battre pour séparer ceux qui sont à lui et ceux qui sont pas à lui, où les gens, enfin les théologiens, il y en a certains qui pensent qu'éventuellement ça fait référence à un jugement ici. Alors c'est maintenant on va essayer de regarder un petit peu le millénium. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce passage là pour l'instant? Alors, par rapport à cette idée-là, cette question par rapport à qui reste, ce qui est intéressant et pour se rendre compte, c'est que cette idée de ce chapitre 20 est peut-être le plus controversé de l'Apocalypse par rapport à cette idée de millénium. Il y a plein de théories un peu différentes. On va regarder. Il y a trois théories principales. Ou explication, enfin de interprétation, pas théorie mais interprétation, et suivant les interprétations ça implique des choses par rapport à la chronologie du reste du livre. Ça se lie aussi avec si on croit à l'enlèvement de l'église avant la tribulation, pendant ou après, Et donc en mélangeant ces deux-là, ça fait déjà pas mal de critères possibles et qui jouent ensuite sur beaucoup de des chronologies, des différentes étapes dans la fin, dans les jugements des différentes personnes, dans et donc maintenant on va regarder le millénium et je vais essayer de vous montrer les trois points de vue et de vous montrer là où ça influe justement sur ces différentes successions d'événements possibles. Donc là on va regarder ça. Je sais pas exactement la meilleure manière pour vous de, parce qu'il y a pas mal de points, on va dire. Je pense que je vous imprimerai hein, quelque chose de, avec les différents points et les différents textes. Pour la fois, on fera le bilan. Donc aujourd'hui, si vous voulez peut-être pas tout noter, mais peut-être plus essayer de comprendre ou de me poser des questions, d'essayer de comprendre les trois points de vue. Et après, peut-être de voir si vous voulez plus approfondir. Quand je vous donne une petite feuille, vous pouvez regarder après les différents versets, voir un petit peu plus à ce moment-là, parce que sinon c'est beaucoup de notes à prendre et c'est un peu difficile à saisir. Donc les trois points de vue majeurs sont ce qu'on appelle les points de vue post-millénaristes, le point de vue amillénariste et le point de vue pré-millénariste. Le post-millénariste, c'est post dans le sens où il pense que la seconde venue de Jésus se fait après cette période de 1000 ans. Le point de vue amillénariste élimine l'idée d'un millénium et l'interprète de manière plus spirituelle et symbolique. Et l'idée pré-millénariste, c'est celle à laquelle moi je tendrais à adhérer, avec l'idée que Jésus va revenir à la fin de la grande tribulation, mais avant une période de 1000 ans pendant laquelle il va régner de manière littérale sur la terre.
Ça, c'est les
pré-millénariste. Donc l'idée, c'est un peu. On n'a pas de tableau blanc, c'est dommage. T'as un tableau blanc ? T'as des stylos et tout ? Si vous voulez, je vous fais des petits dessins comme ça. Ça... Ouais, peut-être.
Est-ce que tu peux allumer la lumière ?
Allumer.
Merci.
Je n'ai pas bien compris le point de vue de la amillénariste.
Alors, on va.
La poste et la pré, oui.
Ouais.
La
je
comprends pas bien.
Ouais, ben on va regarder. Là, je vous ai donné juste le truc et maintenant on va prendre.
Non, même dans l'explication, je
d'accord,
peux pas
d'accord, ok.
Oui, ça qu'on va détailler, j'ai écrit comme ça.
Qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, disons, c'est la classe, hein? Je sais pas, hein? Il y a marqué lavable, mais bon, est-ce que lavable, ça veut dire que ça s'enlève des vêtements ou...
Il est dans le coin.
Surtout qu'il est beau, quoi, il est neuf. Ça écrit même pas, quoi.
J'ai vu qu'il y en a qui appellent le prémillénarisme aussi millénarisme.
Oui. Les prémillénaristes, c'est ceux qui prennent vraiment de manière plus littérale. Quoi. Il y aura une période de 1000 ans. Donc c'est ceux qui adhèrent plus à, déjà à l'idée de millénium. Tandis que les amillénaristes ou les post-millénaristes, c'est. Ce sera peut-être 1000 ans, peut-être pas. Il n'y a pas vraiment d'obligation que ça soit de cette période-là.
Le A est en privatif.
Et le A, c'est l'idée que bon, c'est pas, il n'y a pas de millénium.
C'est, oui, c'est le A.
Qu'il n'y a pas de millénium littéral, qu'il n'y aura pas de. Oui, voilà, c'est privatif. Hein,
oui, d'accord.
Bon, on va essayer de faire 30 tableaux, puis on revient. Non, il ne marche pas, le truc.
Le truc, il est...
Bref.
Il est sec.
Donc, regardons le point de vue post-millénariste. Donc, selon ce point de vue, il y a en fait un... Pour eux, c'est un peu un mélange de l'idée de royaume de Dieu, de royaume millénaire. Il n'y a pas de distinction. Et ces gens-là pensent que l'humanité, grâce à l'Église, devient meilleure et se dirige finalement vers une longue période de paix, de prospérité et de justice sur la terre qui vient par la prédication de l'Évangile. En fait, bon, ben, par l'Église, ça tout tend vers quelque chose de mieux. Déjà, on se dit, mais c'est difficilement conciliable avec la réalité et avec d'autres enseignements d'autres personnes dans le Nouveau Testament. Pour eux, Christ reviendra après le millénium, et donc après cette période qui n'est pas forcément 1000 ans, mais cette période pendant laquelle l'Église petit à petit change le monde jusqu'à arriver à une sorte un peu d'utopie, et puis ensuite pendant une longue période, peut-être 1000 ans, peut-être pas exactement 1000 ans, mais il y a une sorte de tout va bien grâce à l'Église, et à la fin de ça, Jésus revient, et après il y a ce qu'on verra au chapitre 20, il y a des résurrections, le jugement, et ensuite la condition éternelle, les gens non croyants en enfer et les croyants avec Jésus au ciel. Pour ce point de vue, il n'y a pas vraiment de distinction entre l'Église et Israël. Pour eux, l'Église est en quelque sorte devenue la nouvelle Israël. Elle a pris la place d'Israël. Et donc, les prophéties de l'Ancien Testament par rapport à Israël qui ne sont pas encore accomplies se verraient ou sont en train d'être accomplis par l'Église, en quelque sorte. Un des gros points de qu'on verra dans le point de vue prémillénariste, point de vue par rapport à la compréhension du millénium, c'est l'idée qu'il y a plein de choses vis-à-vis d'Israël, plein de prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Des prophéties sur le fait qu'ils vont avoir une période de prospérité où tout va aller bien, où Jésus va régner, où David va être le roi, où il y a un accomplissement. Et donc ça par rapport au millénium, ça pose évidemment des problèmes. Dire si en fait c'est l'Église qui finalement, si l'Église va crescendo jusqu'à une période de prospérité bien, et qu'ensuite Jésus revient et que c'est la fin, comment est-ce que Jésus répond à ces prophéties non accomplies par rapport à Israël? Et donc pour ces gens-là, c'est de dire, c'est l'Église, quand on parle d'Israël, avant c'était Israël, et en fait c'était par annonce l'Église, qui est le peuple de Dieu d'après, Jésus, et donc c'est eux qui vont accomplir les promesses, qui vont être ceux qui les accomplissent avant la fin de l'histoire avec Jésus, le retour de Jésus et puis l'éternité. Pour eux, ça pose aussi un problème vis-à-vis de l'enlèvement de l'Église. Et donc pour eux, parce qu'on ne peut pas avoir, à ce moment-là, il y a un problème vis-à-vis de l'enlèvement. Tu ne peux pas avoir l'enlèvement à la fin, puis une période, et puis la fin des temps. Donc c'est parce que c'est eux qui pensent que l'Église va justement amener la période de paix et la fin bien sur la terre. Et donc pour eux, c'est au moment où Jésus revient à la fin, après la longue période, le millénium de paix et de prospérité, que l'Église est enlevée, en quelque sorte. Donc c'est un peu cette idée que l'Église monte au ciel et rencontre Jésus, et puis là, ils descendent ensemble à la fin de l'histoire, et que c'est là qu'ensuite il y a les jugements, et ensuite l'éternité. Donc ça, les passages, alors c'est Michée 4, 1 à 5, Galates 6, 16 et Romains 1, 16, certains des textes un peu clés par rapport à ces choses-là, en plus de ce qu'on verra dans l'Apocalypse 20. Et sont principalement des passages qui parlent de la puissance de l'Évangile, et puis l'idée de paix et de prospérité sur terre, notamment Michée, et donc cette idée que par la puissance de l'Évangile, ça va aller mieux, quoi, c'est tellement puissant que ça va changer le monde et nous amener dans une période de paix, de prospérité, de un peu d'utopie sur la terre. Et un autre point de vue par rapport à ça, un des derniers aspects, c'est cette idée que c'est beaucoup lié en fait à l'effort humain, puisque c'est l'homme qui doit annoncer l'évangile, et donc il y a un peu un côté où l'homme est par la puissance de l'esprit, mais fait venir le royaume, ce royaume millénariste. Donc les réponses ou les choses, les critiques qu'on peut faire par rapport à ce point de vue, c'est que c'est pas très étayé dans la Bible, c'est un peu c'est assez léger comme point de vue à ce niveau-là. C'était un point de vue qui était peut-être à un certain moment, il y a eu en Angleterre notamment certains théologiens qui étaient très adeptes de ce point de vue à un moment au 18-19e siècle où il y a eu pas mal de réveils en Angleterre et où les choses commençaient à sembler aller vers un peu une domination de l'Église dans le notamment en Angleterre, et eux ils pensaient que ça continuerait. Les deux guerres mondiales étant passées par là, ça a pas mal calmé les ardeurs à ce niveau-là. Donc c'est pas très soutenu comme point de vue aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est une des explications possibles. Ça ignore de grandes portions des prophéties de l'Ancien Testament, avec ce qu'on disait, les problèmes par rapport à Israël, la Nouvelle Alliance, et des choses qui doivent arriver dans le millénium mais qui ne sont pas forcément arrivées. Il n'y a pas forcément une règle d'interprétation littérale des choses. C'est un peu flou. On interprète de manière symbolique ou spirituelle certaines choses, certains textes. Et notamment les premiers 6 versets qu'on va voir d'Apocalypse qui sont obligés de changer en interprétation spirituelle, où ils disent le royaume, c'est pas un royaume physique, mais c'est un royaume spirituel. C'est a priori ne prend pas. On va voir que le millénium, il semble avoir des objectifs, Dieu a des raisons d'avoir cette période, et ça semble pas cohérent avec ce point de vue. Ça pose un problème parce que ça brouille la distinction entre l'Église et Israël. Ça c'est un peu trop optimiste ou peut-être un petit peu trop humaniste, dans le sens où l'homme par le progrès ou par la bien sûr grâce à l'Évangile et à la puissance de l'Esprit, mais aussi un petit peu par son activité, l'Église va réussir à transformer tous les hommes, et même par rapport à l'Apocalypse, on a vu qu'il y a toujours des hommes qui restent fermement dans leur envie de rébellion, malgré tout ce que Dieu peut leur faire. Et donc on se dit que ces hommes, même avec le Saint-Esprit et même avec l'annonce de l'Évangile, on n'a pas l'impression que ça puisse changer leur cœur. Par rapport à la réalité aussi de ce qu'on voit, on n'a pas l'impression que ce soit la situation. Et ça pose aussi des problèmes par rapport à certains textes, par exemple de Paul ou dans Matthieu, qui dit avant les derniers temps que ça va être pire en pire, quoi. Les hommes seront de pire en pire, Et il n'y a pas cette notion de enfin, l'impression qu'on a de l'enseignement biblique par rapport à l'histoire du monde, c'est que l'homme, il commence et il corrompt les choses jusqu'à ne plus le pouvoir, et Dieu est obligé une première fois avec le déluge d'interrompre les opérations. Il recommence une deuxième fois, là il commence tout de suite à faire la tour de Babel, alors il met un frein avec les langages, mais on a l'impression qu'on a, c'est que l'histoire du monde telle qu'on la voit dans la Bible, c'est que les choses vont de mal en pire à cause de la nature pécheresse de l'homme et de l'influence de Satan aussi. Voilà, donc ça c'est le point de vue post-millénariste. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez saisi ce point de vue-là, en tout cas? Les Allemandes se regardent et rigolent. C'est bon. On va regarder le point de vue amillénariste maintenant. Donc d'après ce point de vue, Israël, c'est aussi, maintenant l'Église. Ils ont le même point de vue que l'Église et Israël sont un petit peu la même chose. Israël, c'était le peuple de Dieu avant, et maintenant c'est l'Église. Donc aussi l'Église, de façon symbolique, accomplit toutes les prophéties qui sont faites à propos d'Israël. Pour eux, la terre se trouve déjà dans le temps du royaume, mais c'est un royaume spirituel. Eux, pour eux, à la mort de Jésus et à la résurrection, déjà à ce moment-là, Satan aurait été déjà lié, son influence aurait été limitée, et donc il y a déjà un peu un royaume spirituel qui est établi. Donc eux ne pensent pas qu'il y aurait de millénium littéral sur la terre pendant laquelle Jésus régnerait. Pour eux, c'est aussi l'enlèvement qui équivaut à la seconde venue, avec la même idée que Christ va venir à la fin du temps de l'Église, quoi, qui va venir à la fin de cette période-là. Pour eux, c'est intéressant, mais le temps de l'Église se termine avec une période de détresse. Donc pour la grande tribulation, et c'est après ça que Jésus vient. Et pour eux, ils prennent certaines promesses qui ont été faites au peuple d'Israël, et ils essaient de les transposer soit à l'Église, soit à des temps antérieurs avec le peuple d'Israël. Notamment, une des prophéties ou une des choses qui est annoncée par rapport à Israël qui donne souvent lieu à des débats, c'est l'idée du territoire qui était promis à Israël, qui était très grand, qui allait de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate, et qui était bien plus grand que ce qu'ils ont effectivement conquis. Et ces gens-là essaient de dire que, par exemple, ce point de vue, cette chose-là a été accomplie sous Salomon ou David dans certaines circonstances, parce que ça leur pose problème sinon. Eux se servent de passages dans Matthieu 13 et dans Matthieu 16, principalement. Et donc ce point de vue, encore une fois, cette distinction brouillée entre Israël et l'Église pose problème. Et ils sont obligés de prendre tous les passages qui parlent du millénium et de les interpréter de manière symbolique ou spirituelle. Donc ils voient aussi que, a priori, les prophéties pour Israël sont accomplis spirituellement plus tard par l'Église. Et bon, cette idée de royaume présent où tout irait bien nous semble un petit peu difficile à accepter au vu des textes, notamment dans l'Ancien Testament, qui parlent de manière très a priori littérale et imagée des conditions qui régneront pendant cette période-là et qui ne semblent pas vraiment en accord avec ce qui se passe actuellement. Voilà. Question par rapport à celui-là.
Et il situe à quel moment l'enlèvement
et... L'enlèvement pour eux, c'est à la fin du royaume.
Millénium.
Voilà.
Donc pour eux, ce serait à la fin.
Disons que pour eux, il n'y a pas vraiment de millénium, quoi. C'est une période de royaume depuis que Jésus est là, qui correspond à l'Église. Et bon, évidemment, ça pose aussi.
Ça doit leur poser problème,
c'est pas ça. Ah oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'effectivement, ils interprètent, ils sont obligés de tout symboliser, notamment des problèmes, enfin même.
Mais. Que tu l'appelles millénium ou mille ans, ils en font quoi des mille
ans? Pour eux, c'est un chiffre symbolique en disant que bon, quand ils prennent des passages par exemple qui disent que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans et donc ils disent que 1000 ans c'est pas forcément représentatif, mais bon, c'est aussi des méthodes d'interprétation où on est obligé après de se poser des questions même par rapport à tous les chiffres qui viennent après dans l'Apocalypse, c'est à dire que pour eux c'est des symboliques. 7 ce serait quelque chose de complet, donc pour eux, ils disent. Enfin, j'ai vu des commentaires où les gars disaient bon, ben visiblement, 3 c'est le Dieu, la Trinité, 7 c'est l'homme, la complétion, donc 3 plus 7 ça fait 10, et là c'est 10 puissance 3, donc c'est genre Dieu à la puissance 3, enfin 2 au carré, enfin c'est des interprétations un peu où on peut après un peu aller où on veut. Oui.
C'était la vision ou l'interprétation de saint Augustin qui a beaucoup influencé l'Église catholique aussi. Et donc il spiritualisait tout chapitre.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, jusqu'à 300 ou 400 après Jésus-Christ, l'Église, de manière générale, était a priori pré-millénariste, avec une interprétation très littérale de ces choses-là. Et c'est que à partir de effectivement saint Augustin, quand il a commencé à pousser ce point de vue qui était proposé par d'autres personnes, d'autres théologiens de la même période, que ça a été très poussé et ça a ensuite donc pris racine dans l'Église catholique, qu'il a ensuite plus ou moins gardé jusqu'à, alors je sais pas où ils en sont maintenant, mais toute leur histoire. Et c'est que ils disent, enfin au 17e, 18e, vraiment assez tard, que les gens sont revenus à un point de vue prémillénariste, en se penchant et en étudiant les textes et en disant qu'il fallait revenir plus à une croyance littérale de la Bible. Et même pour des gens, par exemple, qui parlaient de sola scriptura, d'un retour à la Bible, les réformes, les protestants, Luther, Calvin et tout ça, ne remettaient pas en cause cela. En fait, ils étaient vraiment dans un point de vue hérité qui venait depuis saint Augustin. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien et qui finalement n'a perdu un peu de son influence, surtout dans l'Église évangélique ou protestante, qu'assez récemment, en fait. Même si c'était le point de vue depuis le départ, quoi.
Souvent, les critiques disent que c'est une théorie récente qui date du 18e siècle avec Darby et d'autres, mais eux, ils revenaient à quelque chose du 1er jusqu'au 4e siècle.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point de vue-là? Alors, je propose une pause et après, on verra le point de vue très millénariste. Donc le point de vue prémillénariste, c'est avec une interprétation plus littérale de la Bible et des différents passages qu'on peut utiliser pour décrire le millénium, et aussi ce passage qu'on va regarder tout à l'heure de ce chapitre 20. Dans ce point de vue, Dieu n'a pas encore réalisé toutes les promesses concernant Israël. Il reste des choses à accomplir. Il doit à un moment restaurer le pays d'Israël, lui réaccorder une une puissance, une vitalité politique, religieuse et économique. Et donc, dans ce point de vue, le millénium n'est pas encore venu et va venir après la grande tribulation. Donc, dans ce point de vue, Israël et l'Église sont distincts. Il y a deux plans de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour Israël qui reste encore à finir, et il y a un plan de Dieu pour l'Église. Ce point de vue, c'est qu'il y aura vraiment un règne littéral de Jésus sur la terre de 1000 ans, qui sera un temps de paix, de prospérité, de justice, qui viendra après ce qu'on a vu au chapitre 19, et qui viendra avant le jugement dernier et l'éternité avec Dieu. Donc là, les textes bibliques qui peuvent s'y référer. Alors il y a des passages, beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, mais je vous donnerai peut-être la liste plutôt que de vous les dire. Mais l'idée qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites à Abraham et à David, qui n'ont pas encore eu lieu. Et qu'a priori ces promesses impliquent une présence de Jésus pendant cette période. Notamment, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais l'idée que Jésus va régner sur les nations avec un sceptre de fer. Le millénium s'y accorde assez bien, dans le sens où il y a vraiment un règne littéral de Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Ensuite, c'est des choses dans l'Apocalypse et par rapport à la chronologie qu'on va voir au chapitre 20. Et donc, a priori, c'est conforme à une interprétation littérale, ce qui n'est pas forcément... qui est quand même quelque chose que nous, on essaie de prendre. Ça semble s'accorder pour moi de façon plus cohérente avec l'enseignement des Écritures. Ça garde cette distinction entre l'Église et Israël, qui là aussi, par rapport aux textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a pas mal de textes où, il y a une distinction qui reste. A priori, on va voir que ça s'accorde bien avec les objectifs de la grande tribulation, de la seconde venue de Jésus et du règne de 1000 ans qui vont suivre, peut-être les objectifs que Dieu a pour ces périodes-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point de vue-là? Je vais faire juste un
récapitulatif, hein,
de toute façon. Et on va faire un petit.
Petite interrogation
sur ça. Sortez-moi vos feuilles. 5 minutes. Donc maintenant, pour finir, on va regarder un petit peu ce que c'est que le millénium. Ce qu'on aurait peut-être dû faire avant, mais on le fait maintenant. Et par rapport au texte, au chapitre 20, on va le regarder aussi. Donc, dans ce point de vue prémillénariste, comment on se situe, ce serait une période de 1000 ans pendant laquelle Christ règne sur la terre. Ce serait un moment caractérisé par une paix mondiale, une grande prospérité, une justice, et ça viendrait en accomplissement de certaines promesses de l'Ancien Testament et certaines promesses avec la Nouvelle Alliance. Alors, il y a pas mal de textes qui font référence à ces choses-là. Mais on sait par exemple qu'a priori Israël sera rassemblé sur son territoire dans la paix, avec une, comme on a dit, une vitalité, une importance économique et religieuse. Qu'a priori Jérusalem sera la capitale du monde, le centre d'influence du monde. Que la terre sera en grande partie changée, restructurée au niveau de son organisation. Que Christ régnera, donc ce qu'on a dit, en tant que roi sur toutes les nations de la terre. Qu'a priori, il y aura un temple à Jérusalem où des sacrifices en commémoration de Jésus seront offerts et où Dieu sera adoré. Que Satan et ses démons seront absents pendant cette période, seront liés dans l'abîme. Qu'il n'y aura pas, a priori, de conflit au sein du règne animal. Ce sera une période, il y a des passages dans l'Ancien Testament qui font référence à ça, à l'idée que les animaux pourront vivre ensemble et qu'il n'y aura pas de prédateurs et de proies, et que l'homme n'aura pas à craindre les animaux, un petit peu comme dans le jardin d'Éden a priori. Que les gens vivront jusqu'à être très vieux, encore une fois un petit peu comme les choses qu'on voit dans le début de la Genèse, et qu'a priori tous les gens qui entreront dans le millénium, le début, seront sauvés. Alors évidemment, enfin, on a posé la question tout à l'heure des gens qui pourraient populer la terre à ce moment-là, qui seraient présents. On avait parlé des 144 000 juifs qui, a priori, seraient préservés physiquement pendant la Grande Tribulation. Donc, il y a déjà eux. Et ensuite, il y a peut-être des juifs et des non-juifs qui sont sauvés pendant la Grande Tribulation et qui survivent d'une manière ou d'une autre aux choses qu'on a vues, qui peuvent y rentrer. Et ensuite, pourrait y avoir, enfin, les gens en vivant peuvent dans cette situation de paix et de prospérité se reproduire, avoir des enfants et donc il y aura peut-être une grande augmentation de la population du monde. Et alors, je parlais du fait que Jésus allait faire peut-être le tri avec les croyants et les non-croyants avant le millénium. C'était dans Matthieu 25, 31 à 46. Bon, c'est des possibilités, alors là. C'est des choses sur lesquelles moi j'ai du mal à être catégorique. Et donc on va voir qu'il y a un petit peu un épisode un peu intéressant ou bizarre à la fin, avec Satan qui relâchait une nouvelle rébellion des hommes. Et donc ça peut poser la question du pourquoi. Donc pourquoi cette période, ce royaume millénaire. Alors, certaines choses qui peuvent être... on a déjà parlé des promesses faites à Israël. Ce sera une période où Dieu pourra accomplir les promesses qui n'ont pas encore été accomplies pour le peuple d'Israël. Il y a aussi des promesses par rapport à cette idée d'un temps de paix mondiale, de choses, cette idée, comme je l'ai dit, que Christ pourrait être roi sur la terre. Ensuite, on peut avoir l'idée que Dieu montre comment il voulait que l'homme vive sur terre, comme il a échoué à le faire. Et par cet épisode qu'on va voir avec la rébellion à la fin, c'est peut-être aussi une occasion pour Dieu pas que ce soit sa volonté, mais aussi une preuve simplement du fait que l'homme, même sans l'influence de Satan, même dans un monde de prospérité, de paix, de tout qui va bien, est encore pécheur, de manière assez étonnante, comme on va le voir dans le chapitre 20, mais que Dieu, par cela, peut aussi montrer que bon, ben, c'est finalement un choix et que l'homme, c'est vraiment sa nature qui est mauvaise et c'est pas simplement... souvent on dit que c'est la société qui corrompt ou c'est la faute au système et ce sera peut-être un moyen pour Jésus de dire voilà, moi j'ai régné, tout allait bien et même avec ça vous avez quand même réussi à vouloir vous rebeller contre moi. Voilà, donc ça je vous donnerai un petit peu un récapitulatif imprimé pour que vous puissiez regarder. On en reparlera aussi avec la chronologie pour voir le survol de tout le livre. Donc je vous propose maintenant de regarder le chapitre 20, s'il n'y a pas de questions ou pas d'objections. Voilà. Chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts et qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Donc, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Donc, la clé de l'abîme. L'abîme, on a dit que c'était cet endroit d'attente. On va voir plus loin qu'ils sont en attente de ce jugement devant le grand trône blanc. Et donc, c'est cet endroit, le Sheol ou Hadès, une sorte de pré-enfer pour les non-croyants. Et un endroit où certains démons sont enchaînés. On a vu plus tôt dans l'Apocalypse qu'il y avait des bestioles qui étaient libérées, qui sortaient de l'abîme, qui venaient tourmenter les hommes pendant 5 mois. Et ici, on voit que Satan va être enfermé dedans. Là, l'ange qui tient la clé, il y a deux. Soit c'est un ange quelconque ou pas sans nom. Soit c'est Jésus. Si on regarde Apocalypse 1, 18, la première description qu'on avait de Jésus, on voit qu'il a « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc ça pourrait être Jésus éventuellement. Mais en tout cas, on a encore l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bataille. C'est juste on va l'attraper et on le traîne. C'est pas comme s'il avait l'option, ou s'il se battait, ou s'il avait l'espoir d'y échapper. Et donc, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour 1000 ans. Donc Satan est enfermé pour 1000 ans. On peut se demander pourquoi, on peut se dire mais quel est l'objectif là ? Ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est de se dire, et on va voir plus loin, verset 3. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, ce mot-là, il faut. C'est intéressant de se dire que, bon, encore une fois, Satan, en fait, sert d'une certaine manière les plans de Dieu. Il faut, c'est que Dieu l'utilise d'une certaine manière, même si c'est pas la volonté de Satan, mais il sert les plans de Dieu. Et donc, le pourquoi de cette période de 1000 ans d'enfermement, plutôt que simplement une condamnation directe en enfer pour de bon, on ne sait pas, mais Satan est soumis aussi, sert les plans de Dieu. Verset 3, il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc il est enfermé pour ne plus séduire les nations. Donc ça correspond bien.
Oui. Est-ce que c'est le millénium, c'est ça, c'est justement quand Satan est enfermé.
Ah, c'est aussi la période, la suite du texte. Verset 6, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans.
Satan.
Oui,
c'est à la fin des 1000 ans que Satan est relâché.
Donc... Oui. Mais disons que c'est ce que je disais par rapport au fait que le millénium était une période a priori où
Jésus règne sur terre.
Voilà, et où Satan.
Satan est absent.
Oui.
Ah, c'est ça. Donc c'est ça le millénium.
Oui.
J'avais peur que ce soit encore un autre truc.
Ah non, ouais, ça correspond au millénium. C'est-à-dire que pendant le millénium où Jésus règne sur la terre, Satan est enfermé. Effectivement. Et c'est un des points dont je parlais tout à l'heure en disant que ça pose problème avec les autres points de vue, de dire que Satan, s'il n'y a pas de millénium littéral, qu'est-ce qui se passe avec Satan ? Parce que ce texte nous dit que Satan est enfermé pendant cette période. Donc si on a un point de vue où on dit que c'est pas... c'est quelque chose de symbolique, par exemple le temps de l'Église. Moi personnellement, j'ai pas l'impression que Satan soit forcément très restreint. Et on voit dans 1 Pierre 5:8 que Pierre dit que Satan est comme un lion qui rôde et qui cherche à dévorer qui peut. Enfin, c'est dans les textes du Nouveau Testament, on n'a pas l'impression que Satan est et jusqu'à maintenant, très limité. C'est un des points qui pose problème, mais effectivement, pendant le millénium, Satan est enfermé.
Il y en a qui disent que s'il est enchaîné, la chaîne est trop longue.
Il a trop de liberté. Donc on voit encore une fois que Satan, c'est quelqu'un qui ment. Sa principale activité, là, on a l'impression que c'est de séduire les nations. Et donc la vérité que représente Jésus est vraiment opposée à Satan. C'est vraiment l'opposition entre celui qui est fidèle et véritable et celui qui séduit, qui ment, qui essaie de tromper les gens. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça pour l'instant? Verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ils voient des trônes, ils voient des gens qui s'y assoient. Et alors, est-ce que c'est les mêmes que ceux après ? Est-ce que c'est les 24 anciens de Apocalypse 4 qui représentaient l'Église qu'on avait vue devant au ciel ? Est-ce que c'est les apôtres ? Est-ce que c'est tous les saints ? Il y a un passage dans 1 Corinthiens 6 où Paul... Corinthiens 6, 2 et 3, où Paul dit ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires du monde de moins d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Donc là, on peut se dire, cette idée de juger, ça y fait penser. Ils aident avec l'administration en quelque sorte du royaume millénaire de Jésus. Et ensuite on voit les saints de la tribulation, mais peut-être même des gens qui ont donné leur vie pour Jésus avant. C'est difficile d'avoir une vision catégorique. Cette idée que les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, ceux-là, c'est peut-être même des martyrs d'autres moments de l'Ancien Testament. En tout cas, ceux-là reviennent à la vie et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc, les autres morts, alors là, on ne sait pas si c'est... encore, il faut voir, c'est à partir des morts dans le verset précédent qu'on sait qui sont les autres morts exactement, donc c'est ça se recoupe ou ça divise les catégories, mais c'est la première résurrection. Il y a différentes interprétations par rapport à cette idée de première résurrection aussi. Alors, dans Jean 5, 28 et 29, on nous parle de deux résurrections, la résurrection et la vie, ou la résurrection et le jugement. Une idée qu'on ait une résurrection pour la vie ou une résurrection pour le jugement. Dans Luc 14, 14 et Actes 24, 15, il y a une référence à la résurrection des justes. Dans 1 Corinthiens 15, 23, il est fait mention de la résurrection de ceux qui lui appartiennent lors de son événement. Et dans Hébreux 11, 35, le passage nous parle aussi d'une résurrection meilleure. Donc là, a priori, c'est une résurrection corporelle de quelqu'un qui était déjà vivant spirituellement. Donc c'est c'est une sorte de deuxième, deuxième corps physique. Et alors là, c'est aussi des choses qui sont qui posent pas mal de questions par rapport à, au fait de savoir si c'est, cette première résurrection est un événement à un moment précis, à dire que ici, au moment où où Jésus est en train d'établir le royaume millénaire, si à un moment précis ces gens il y a cette résurrection, reviennent à la vie, ou est-ce que c'est l'idée d'une première résurrection d'une catégorie quoi, et donc ce serait l'idée que les chrétiens qui meurent font l'expérience d'une sorte de résurrection corporelle de manière systématique et dès le moment où ils meurent. C'est des choses où j'ai du mal aussi parce qu'il y a des textes beaucoup de choses à lire là-dessus. Et ça pose aussi des problèmes par rapport aux idées. Les gens lisent ça ou non à l'enlèvement de l'Église, avant ou après, ou au milieu. Donc, la plupart tendent à dire que c'est les chrétiens qui vont régner avec Jésus pendant les 1000 ans et que les autres morts... qui sont morts mais qui ne sont pas croyants sont laissés pour plus tard.
Ouais, pour beaucoup c'est les saints qui ont été ressuscités avant le millénaire.
C'est des choses qui sont au-delà de toute compréhension. Je n'ai peut-être pas m'y plonger, mais il y a énormément de choses à lire là-dessus et sur l'idée que effectivement les chrétiens font l'expérience de cette résurrection, de dire par exemple quand Jésus est transfiguré sur le mont qui a Noé et c'est Élie qui sont présents, et donc corporellement comment ça se passe, est-ce qu'ils ont un corps ou pas. Alors il y a pas mal de choses s'il y a des commentaires là-dessus. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Donc eux, ceux qui ont part à la première résurrection, sont heureux et saints. Et donc cette seconde mort ne peut pas les atteindre. Ils sont vraiment vivants, ils sont vivants spirituellement. Et ils ne vont pas subir la seconde mort qu'on verra plus loin dans le texte. Et eux, donc, ils règnent, ils sont sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils règnent avec lui pendant les 1000 ans sur la terre. C'est une des béatitudes encore qu'on avait regardé de l'Apocalypse. Versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc cet épisode-là, moi, me semble vraiment bizarre. Première lecture. Cette histoire de Gog et Magog, on avait déjà vu a priori qu'il y avait une bataille qui impliquait ces deux-là au début, au milieu de la grande tribulation. Et donc ici, a priori, c'est un autre, c'est quelque chose d'autre. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que si Jésus règne et il y a tous ces saints et tous ces chrétiens ou croyants qui règnent avec lui, pourquoi est-ce qu'il y a d'un coup les nations et pourquoi est-ce qu'on relâche Satan? On fait confiance à Dieu d'avoir une raison, une bonne raison. Et l'idée qui est la plus souvent avancée, c'est de dire que si au début du millénium, tous les hommes sont croyants, ont donné leur vie à Jésus, tous leurs enfants, pendant 1000 ans, il y a le temps d'en faire des enfants, surtout si on vit vieux. Et parmi ceux-là, ils n'ont peut-être pas eu à faire le choix, c'est-à-dire qu'ils vivent de manière un petit peu soumise à l'autorité, à la justice, mais par leur nature pécheresse, il y a des gens qui vont faire le choix peut-être de se rebeller contre Dieu, mais à cause de la situation et de l'absence de Satan, il n'y a pas vraiment de catalyseur. Mais qu'en relâchant Satan, c'est un peu comme si Dieu s'en servait comme un révélateur des cœurs de l'humanité qui reste à la fin du millénium pour distinguer qui l'aime vraiment et qui était simplement soumis parce qu'il n'avait pas envie d'avoir de problème.
C'est fou parce que si c'est juste ça, si c'est juste les enfants, c'est à l'infini quoi, dans ce cas, les enfants, on aura toujours qu'on n'aura pas fait leur choix.
Oui. Mais c'est intéressant parce que ça pose vraiment aussi. On se dit, mais ça lève, même, on se dit, même dans une période où Jésus, si on se dit Jésus règne, et que tout est en paix, tout va bien, tout est prospère, il n'y a plus de problèmes, et que même avec ça, l'homme arrive en quelque sorte à se rebeller ou à rejeter Jésus. Parce qu'en plus, a priori, il n'y a pas Satan, il est lié, il n'a pas son influence sur la terre. Et on se dit qu'à ce moment-là, c'est vraiment l'homme, par sa nature, quoi, qui est vraiment mauvais. Et en plus, ça laisse vraiment un côté, même dans une situation comme ça, c'est pas quelque chose au niveau de la société, quoi. C'est-à-dire que ça reste toujours la question du choix personnel du cœur, et que même en étant dans cette période-là, les hommes pourront faire le choix de oui ou non accepter ou rejeter Jésus.
C'est un peu. Certains disent que c'est une des raisons du millénium, c'est de montrer que même dans des conditions parfaites, un dirigeant qui recueillerait 100% des voix. L'homme et son cœur tortueux se manifestent et qu'en fait il n'y a pas de. On ne peut pas blâmer la société pour le péché. Ce que fait l'homme, c'est sans arrêt de dire c'est la faute, comme tu disais, c'est la faute à l'éducation, c'est la faute à mon hérédité. Là il y a des conditions absolument parfaites et le cœur de l'homme reste tortueux et capable de se rebeller contre Dieu.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc là aussi, c'est comme Armageddon, on a l'impression qu'ils essayent de faire un truc et c'est rasé en. C'est automatique. Cette rébellion ne dure pas. Pourtant, c'était leur nombre est comme le sable de la mer. C'est encore des grandes quantités d'hommes qui refusent. Verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, Satan est enfin. Quoi ? Oui. Défait, là, c'est vraiment, il rejoint ces deux autres pantins qui ont déjà passé 1000 ans dedans. Et là aussi, ça nous pose par rapport à notre compréhension de, du monde manichéiste qu'on veut nous faire gober par rapport à Dieu et Satan qui sont des égaux, et Dieu il a le ciel et Satan il a son domaine de l'enfer, ben là on voit qu'en fait lui il préférait être sur terre ou ailleurs, et c'est que quand il est, quand il se fait écraser et que Dieu l'envoie en enfer qu'il y va, et on voit qu'il est tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Même Satan lui-même est tourmenté, c'est pas un endroit où lui tourmente les autres, c'est un endroit où même Satan est tourmenté. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Là, on a un grand trône blanc. Je vous dis, c'est soit Jésus qui juge, soit peut-être la Trinité complète, soit peut-être Dieu le Père. Ce passage intéressant avec la terre et le ciel qui s'enfuient, qui ne trouvent, on ne trouve plus de place pour eux. C'est la fin du ciel et de la terre tels qu'on les connaît. Ça fait aussi qu'il n'y a plus d'endroit où se cacher. On ne peut pas vraiment le comprendre ou saisir ce que ça implique vraiment, mais il y a un passage dans Daniel 7, versets 9 et 10, qui semble aussi faire référence à ces choses, même si peut-être avec quelques différences, peut-être qu'on prépare. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts.
C'est quoi, quelle référence à Daniel ?
Daniel 7, versets 9 et 10. Et verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Alors, a priori, dans la... Là aussi, c'est des choses où il faut voir un peu avec l'idée des résurrections, des choses qui se passent avec différentes catégories. A priori, il y a aussi au niveau des jugements différentes choses qui se passent. Et de ce qu'on comprend, par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 10, on semble voir qu'il y a un autre jugement pour les chrétiens, un jugement devant Jésus. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15 aussi, en parle. Et c'est l'idée qu'en fait, en tant que chrétien, en tant que croyant, on est sauvé, on a notre nom inscrit dans le livre de vie, mais Jésus va éprouver en fait les œuvres par le feu, et il ne restera que ce qui a été vraiment fait pour Jésus, et on sera récompensé en fonction de cela. Pour ceux qui ne croient pas, a priori, c'est ce jugement ici. Et on voit qu'il y a le livre de vie qui est ouvert, et ensuite qu'il y a des livres qui sont ouverts. Et ça semble indiquer que on voit au verset 15 que ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie sont jugés et sont condamnés. Et c'est un peu comme si ceux qui ne croient pas, leur nom n'est pas dans le livre de vie. Et donc Dieu leur dit, bon, ben, on va regarder le livre de ce que tu as fait dans ta vie, c'est peut-être ces autres livres qui sont ouverts, qui gardent la trace de ce que l'homme a fait. Et en quelque sorte, face à même ce que l'homme a fait, Dieu va dire, bon, ben, tu n'es pas dans le livre de vie, tu n'as pas accepté Jésus, regardons ce que tu as fait, dans ta vie tu as péché, condamnation. Et sentence. C'est avec Manu et Maria, Manuel, qui Et quand il fait ses évangélisations, il fait un truc avec un tableau blanc où il parle avec les gens et après il leur pose de la question pour essayer de leur montrer que même eux, par leurs propres normes, par leurs propres standards, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Et il dit, Dieu dit que si vous n'êtes pas parfait, vous avez un problème. Et c'est en quelque sorte, ces livres, Dieu dit, même en regardant le fil de votre vie, on ne peut rien y faire. Et on voit qu'a priori, dans ces jugements, même si les gens sont tous envoyés en enfer, il y a quand même une différence. On se rappelle de certains passages, notamment de Jésus qui parlait de gens qui feraient certaines choses et qui seraient traités plus durement que Sodome et Gomorre. Et donc il y a dans certains des passages, notamment avec Jésus, une idée implicite que même pour des gens qui vont en enfer, il y a différents degrés de tourment. On a du mal à comprendre, à saisir ces choses, mais voilà. Et verset 13, la mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Donc là, c'est tout le monde, tous les morts, vraiment tous les... sont tous ceux, la mort et le séjour des morts qui les rendent. Alors a priori, c'est pas les croyants, c'est ceux qui n'étaient pas des saints, qui n'étaient pas des sauvés. Et ils sont jugés selon leurs œuvres. Verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Là, c'est bizarre, on se dit que c'est la mort et le séjour des morts, on se dit que c'est des concepts presque qui sont traités comme s'ils étaient des choses ou des hommes ou des êtres. Il y a un passage dans 1 Corinthiens 15-26 où il dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Donc c'est un peu peut-être... il y a l'idée que le mort, c'est le résultat du péché. La mort, c'est le résultat du péché. Et le séjour des morts, c'est le résultat un peu de la mort. Et donc c'est symbolique ici, en quelque sorte, de la fin du règne du péché. Et donc cette seconde mort, c'est l'étang de feu, c'est la mort et la condamnation spirituelle éternelle. Et donc après cette mort, il n'y a plus de vie. C'est la fin. Et verset 15, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et donc c'est vraiment le livre de vie qui détermine les choses. C'est pas comme si les petits livres, c'est pas comme si on pouvait dire je suis pas dans le livre de vie, d'accord, Jésus j'ai pas cru, je me suis fait mon propre chemin en passant par ailleurs. C'est vraiment assez catégorique. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en plus?
Alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, alors tu
ne
serais pas dans le livre.
Le livre de vie.
Donc, si tu viens d'une tribu, je ne sais pas où, qui n'a jamais entendu parler de Jésus,
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement les conditions que.
Tu sais pas.
Dieu inscrit sur le cœur les.
La création et
Romain.
De l'homme, on n'est jamais fait de révélation de Dieu. Et je crois que, en fait, ça se passe. Tout le monde est dans le livre de vie, et c'est nous qui rejetons, en rejetant Dieu, nous effaçons nous-mêmes. Et le théorème, c'est que si on est né deux fois, on meurt une fois. Par contre, si on est né qu'une seule fois, on va mourir deux fois.
La double naissance, c'est bien sûr la naissance physique suivie d'une naissance spirituelle qui conduit à une mort physique, mais une vie éternelle. Par contre, si on ne naît que physiquement et pas spirituellement, non seulement on va mourir physiquement, mais après on va être jeté avec Satan dans les temps de feu, donc il y aura deux morts. Mais après, l'idée de la question des pauvres indigènes qui ont jamais entendu parler, souvent c'est une façon de se dédouaner, de dire bon ben, alors qu'en fait ça devrait être une question de nous dire ben moi j'ai la responsabilité d'aller leur dire ce qui se passe vraiment.
Surtout pour les non-croyants, la question c'est toi tu as entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
Mais Dieu est juste, on sait qu'il est parfaitement juste, donc s'il y a des raisons pour pas qu'il envoie quelqu'un en enfer.
Vis-à-vis de ça, on peut aussi dire qu'il parle de gens de l'Ancien Testament qui ont été sauvés, qui n'avaient pas la Bible, qui n'avaient pas entendu parler de Jésus et qui d'une manière ou d'une autre, Dieu a communiqué les vérités qu'il avait besoin de leur communiquer pour qu'ils sachent et puissent être sauvés ou pas. Il y a aussi une question que Dieu, c'est pas simplement parce que nous on a la Bible qu'on a tout compris maintenant. Dieu a une manière de faire et juste. C'est un peu un non-sujet sur lequel on a envie de s'échapper pour éviter à donner son propre choix. En fait. Mais c'est une question que posent souvent les gens et sur lesquelles les gens butent souvent en tant que chrétiens. Mais c'est pas forcément quelque chose sur laquelle on doit s'arrêter. On n'est pas obligé en tant que chrétien d'avoir des explications rationnelles et systématiques pour tout. Il y a des choses, par exemple, même dans ces textes-là, où on n'est pas sûr exactement de ce qui se passe, de comment ça se passe. Et à ce niveau-là, il faut avoir une certaine humilité et amour.
Dans Romains, Paul insiste bien que tous sont sans excuse. On a tous une conscience du bien et du mal.
Ouais. D'autres questions?
C'est quoi exactement la bête et le faux prophète? Enfin, c'est qui,
La bête et le faux prophète, a priori la bête c'est l'antéchrist et le faux prophète c'est quelqu'un qui influence les hommes et qui pousse les hommes à adorer l'image de la bête et la bête. On les a vus dans les passages plutôt en fait de Apocalypse. Si tu regardes au chapitre 13, il y a une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. Et après il y a des choses un petit peu plus loin, mais a priori c'est des symboliques en fait. Satan, ce serait un peu une contre-trinité où il y aurait Satan qui équivaudrait à Dieu le Père, l'antéchrist qui équivaudrait à Jésus et le faux prophète qui serait un petit peu comme le Saint-Esprit. Et donc dans ces différents textes, il y a ces choses qui sont décrites. Je pense qu'on a... On a regardé dans les textes avant, je ne sais pas si on peut tout refaire maintenant, mais...
Non, mais on peut écouter le message.
Mais a priori, c'est deux outils de Satan pendant la grande tribulation.
C'est au chapitre 13.
D'autres questions?
Non, ça serait bien que tu donnes toutes les références pour faire un petit peu le tableau.
Oui, parce que c'est beaucoup à regarder. D'autres questions, d'autres remarques? Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ta parole, merci pour ces choses, merci que nous pouvons être sûrs du fait que tu reviens et que tu vas gagner, tu vas soumettre toutes choses à ton autorité et que si nous mettons notre confiance en toi, nous pouvons être assurés de notre avenir éternel. Et nous, à nous concentrer là-dessus et à voir aussi l'urgence et la réalité de ces choses dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, Seigneur. Sois glorifié par nos actes et par notre compréhension de ces choses, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.